BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, effectivement, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez jusqu'à 20h sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, on a beaucoup de choses à vous raconter. D'abord, le patron de Boeing qui va démissionner d'ici la fin de l'année, c'est pas vraiment une surprise. Bruxelles qui dégaine tout un lot de procédures contre des géants américains de la tech. Première représailles après l'entrée en vigueur des règles du fameux DMA. C'était seulement il y a quelques semaines, hein, comme quoi Bruxelles, vous verrez, n'a pas tardé à réagir. On parlera aussi ce soir de Bruno Le Maire qui, lui, ressuscite l'idée d'une TVA sociale pour ménager le salaire net des salariés. Et puis alors on vous racontera, entre autres, comment le même Bruno Le Maire s'est invité ce matin à une réunion du comité exécutif d'EDF. Il était venu s'assurer que tout le monde était 100% focalisé sur la relance du nucléaire. Voilà en gros ce qu'on vous raconte ce soir jusqu'à 20h. Et puis effectivement, la grande interview dans 10 minutes, c'est Patrick Koller, le directeur général de Forvia, le 7e équipementier automobile mondial. Patrick Koller qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Voilà le programme non exhaustif, on est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc oui, gros coup de balai en vue chez Boeing, c'est pas vraiment une surprise au vu de tous les déboires qu'accumule entre autres le 737 MAX depuis des années. Résultat, plusieurs responsables dont le PDG vont partir tout simplement d'ici la fin de cette année. Jean-Baptiste Huette.
C'est une grande partie du management de Boeing qui est en passe d'être modifiée. D'abord Dave Calhoun, le PDG, il sera resté 4 ans et partira donc à la fin de l'année. Les problèmes à répétition que rencontre Boeing depuis des mois rendaient la situation de plus en plus intenable. L'image de marque du constructeur est particulièrement écornée. Accidents à répétition, nombreux défauts de qualité. Plusieurs compagnies réfléchissent à des annulations de commandes. Même Airbus, principal concurrent de Boeing, regrette une situation qui rejaillit sur toute la filière aéronautique mondiale. Dave Calhoun ne partira pas seul. À ses côtés, le président du conseil d'administration qui ne sollicitera pas de nouveau mandat. Il sera remplacé par Steve Mollenkopf, l'ancien patron de Qualcomm. C'est lui qui dirigera le processus de sélection du futur patron de Boeing. Départ également à la retraite du chef de l'aviation commerciale. Boeing entre à présent dans une période de transition. Nous allons réparer ce qui ne fonctionne pas et remettre notre entreprise sur la voie de la reprise et de la stabilité. Voilà ce qu'explique aujourd'hui Dave Calhoun. Il lui reste 9 mois pour tenter de transmettre à son successeur une entreprise en moins mauvais état.
Et ça va arriver très très vite. Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. 18h02, je vous le disais, dans l'actu ce soir, on a la confirmation. Bruxelles n'a pas l'intention de rigoler avec son nouveau DMA. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
Dont les règles sont entrées en vigueur début mars. Et déjà on a appris ce matin quoi ? Que Bruxelles lançait des procédures contre plusieurs géants américains de la tech. Ça va vite là Frédéric ?
Oui, ça va vite. Puis pas moins de 5 enquêtes. Hein. Puis alors on vise dire Google, Apple, Amazon, donc à travers leur groupe. Donc c'est ce qu'on appelle les gatekeepers, c'est eux qui contrôlent un peu notre arrivée sur Internet. Alors vous savez que dans le DMA, il y a plusieurs articles, il y a notamment 24 obligations, et Bruxelles estime que selon les cas, ils ne respectent pas tout. Je prends quelques exemples. Hein. Apple, par exemple, vous savez, c'est Apple et Google ont des magasins d'applications. Et bien théoriquement, dans ces magasins d'applications, on télécharge. S'il y a des choses payantes, eh bien, ils sont censés laisser aux développeurs le soin de guider l'utilisateur pour lui dire « Attention, vous pouvez rester payé ici, mais Apple prend 30% ouais. » ou alors « Je vous emmène vers un site internet où là, vous n'aurez pas la commission à verser Apple. » Or ça, ça tarde un peu à être mis en place. Là, une autre enquête, c'est savoir si Alphabet favorise ses services, donc Google Shopping, Google Flight, Google Hotel, après dans les résultats de moteurs de recherche. Voilà, il y a plein de choses. Apple aussi, lorsque vous vous connectez chez Apple, qui doit vous proposer différents moteurs de recherche.
Oui.
Bon, c'est pas toujours très bien orienté. Il y a le modèle aussi payer consent, c'est-à-dire qu'on paye un abonnement pour ne pas recevoir de pub sur Facebook et Instagram. Ouais. Problème, est-ce que on paye, soit on paye pas. Et donc voilà, c'est un peu trop radical comme choix. Et il y a plusieurs choses. Alors pour Messenger, Meta a obtenu un délai de 6 mois pour négocier. Amazon aussi sur sa marketplace. Enfin voilà. Alors il faut quand même savoir que s'ils ne se soumettent pas à tout ça, les amendes, je rappelle, hein, c'est 10% des chiffres d'affaires. Ah oui. Ça peut aller jusqu'à 20% en cas d'infraction avérée, voire même carrément, on pourrait demander à démanteler le service, voire à l'interdire. Donc voilà, on commence vraiment à frapper fort. Il faut passer par là, parce que les GAFA comprennent tout de suite à qui ils ont affaire, et puis voilà, qu'ils commencent un peu à modérer leurs propres règles.
Et le lobbying va faire son œuvre derrière, forcément.
C'est parti, c'est de
parti,
ce côté-là.
Comme à chaque fois. Merci beaucoup Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. En France, ça se confirme. Le premier actionnaire d'Atos, David Layani, 11% du capital, a bien l'intention de jouer un rôle. Il l'a dit il y a quelques heures dans le Figaro, il ne veut pas de cession d'activité au sein du groupe. Réponse assez froide du groupe Atos. Nous prenons acte de ces propos qui n'engagent pas la société et son conseil d'administration. On y reviendra avec Mathieu Pechberti tout à l'heure à 18h30. Et puis, on voulait vous raconter ce qui s'est passé donc ce matin chez EDF. Parce que figurez-vous que Bruno Le Maire s'est carrément invité à une réunion du comité exécutif du groupe. Il est venu s'assurer que sur la relance du nucléaire, tout le monde était au taquet. Mathieu Pechberti, justement, nous raconte ça.
Largement présent au conseil d'administration, le gouvernement s'invite aux commandes d'EDF. Bruno Le Maire met un coup de pression aux dirigeants et pas seulement au PDG Luc Rémont. Il veut s'assurer que l'entreprise publique tiendra le calendrier fixé pour la relance du nucléaire. Emmanuel Macron a promis que le chantier des deux premiers EPR démarrera en 2027. Le ministre de l'économie s'inquiète de la facture des 6 EPR qui a déjà commencé à augmenter. Le chiffre de 67 milliards d'euros a été officialisé en interne, bien supérieur aux 50 milliards d'euros annoncés en 2022, mais qui dataient d'avant le Covid. Mais depuis, l'inflation est passée par là et ce n'est pas fini. Les factures des fournisseurs d'EDF pour le chantier de Penly gonflent à vue d'œil, comme Eiffage qui s'occupera du génie civil. Luc Rémont veut engager un budget bien calibré pour éviter les dérapages, comme à Hinkley Point dont le coût a doublé. L'enveloppe définitive doit être arrêtée cet été pour acter la décision d'investissement à la fin de l'année.
Mathieu Pechberti, on a appris que le Suédois Ericsson allait supprimer 1200 postes chez lui en Suède, c'est-à-dire quasiment 9% de ses effectifs dans le pays. Le groupe explique que le marché des réseaux mobiles devrait être encore difficile, je cite, cette année. Et puis Nissan qui avance de plus en plus indépendamment de Renault. Nissan a présenté un plan ce matin qui devrait lui permettre de vendre d'ici 3 ans 1 million de véhicules de plus. Ce qui ne ferait en fait que le ramener au niveau d'avant Covid. Justine Vassogne.
Nous devons changer la façon dont nous planifions, développons et fabriquons les voitures. À en croire Makoto Uchida, le patron de Nissan, il faut tout revoir, ou presque. Cette année, le groupe devrait vendre 3,5 millions de voitures dans le monde, soit 2 millions de moins qu'il y a 4 ans. Le constructeur japonais a reculé sur ses deux principaux marchés, l'Amérique du Nord et la Chine, moins 24% de voitures vendues entre 2022 et 2023. En Chine, c'est la déconfiture pour Nissan, estime un expert. Pour se relancer, le constructeur veut lancer 30 nouveaux modèles dans les 3 prochaines années, dont la moitié sera électrifiée. Un temps pionnier dans le domaine, Nissan a pris aujourd'hui beaucoup de retard pour être compétitif. Le groupe prévoit de diminuer de 30% le coût de fabrication de ses voitures électriques en créant des familles de voitures avec des plateformes modulaires et des moteurs électriques en commun. Avec cette stratégie, Nissan estime que d'ici 2030, ses voitures électriques coûteront le même prix que ses véhicules à essence.
Voilà Nissan qui veut lancer 30 nouveaux modèles d'ici 2027, dont la moitié électrique et hybride. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. 18h07. On va sur les marchés tout de suite, retrouver Aude Kersulec à Euronext à la Défense. Bonsoir Aude, j'ai presque envie de dire une journée pour rien parce qu'on a terminé à l'équilibre ce soir sur le CAC 40. Hein.
C'est ça, 8151 points, exactement le niveau donc de vendredi soir. On n'a rien perdu, rien gagné. Lundi, très calme, comme c'est souvent le cas le lundi. Alors peut-être techniquement, ce qui se pose problème sur le CAC, c'est les 8250 points. On avait passé les 8200, on a vraiment du mal à passer le cap des 8250. Et du coup, on est quand même redescendu bien dessous hein, depuis quelques jours. Le CAC en panne, le DAX a Francfort, lui, n'hésite pas à franchir un nouveau record. Hein. C'est le cas ce soir à 18 261 points. Et au niveau sectoriel, qu'est-ce qu'on a fait qui poussait aujourd'hui quand même? C'était le secteur de la défense qui faisait la course en tête. C'est valable à Paris avec Dassault Aviation qui était en tête du SBF 120 et Thales aussi en tête du CAC 40 avec le durcissement des tensions quand même du côté de la Russie avec cet attentat vendredi. Les attaques de drones aussi sur les raffineries russes qui continuent et qui font monter encore le prix prix du pétrole. On est à 86 dollars sur le Brent qui monte donc depuis la fin de semaine dernière. Wall Street qui consolide en ce moment, qui perd un peu de terrain. Voilà pour les quelques infos de marché pour une semaine qui s'annonce calme puisque vendredi saint, on n'aura pas de séance et qu'on rouvrira seulement en Europe le mardi de la semaine prochaine. Donc le CAC qui fait aucune progression ce soir à 8151 points.
Merci beaucoup Aude-Claire Sulek. On regarde ce qui se passe à Wall Street. Pendant ce temps, le Dow Jones, l'indice Dow Jones qui perd 0,37%, 39 328 points. Et puis l'indice Nasdaq en petite baisse également, moins 0,1%, 16 413 points, 18h09. Le directeur général de Forvia, Patrick Koller, invité d'Edwige Chevrier. Dans un instant, on parle bien sûr largement de l'avenir de la voiture, voiture électrique notamment. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir Patrick Koller.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour la grande interview. On est dans un lieu un peu particulier parce que vous êtes le patron de Faurecia, directeur général, le premier équipementier français, le 7e au niveau mondial. Et là, on est au Dock d'Aubervilliers, le salon Eiffel, où vous présentez les innovations de la voiture de demain, et notamment celles que vous avez présentées à Las Vegas, et vous avez été primé pour 4 d'entre elles. Alors expliquez-nous un peu, faites-nous un peu rêver sur la voiture qu'on aura, nous, dans 4-5 ans.
Alors d'abord, c'est une voiture qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement.
Oui.
On a fait un focus tout particulier sur ce qu'on appelle le design pour scope 3. Donc utiliser des matériaux à faible contenu de CO2. Et on a des applications ici qui vont jusqu'à moins 70% par rapport à un équivalent conventionnel ou traditionnel.
Ouais.
Ça, c'est un premier point. Le deuxième point...
Oui, j'ai même vu des portières qui étaient faites à partir de plastique récupéré sur les plages ou avec des coquilles d'huîtres.
Avec des coquilles d'huîtres. Vous avez aussi des surfaces qui sont faites avec des résidus d'ananas. Donc on a un tas de possibilités avec du biosourcé. Et vous avez vu, ce sont des surfaces de très grande qualité. Ce sont des surfaces que l'on peut comparer avec du cuir. Donc c'est tout à fait intéressant. Le deuxième élément important, c'est tout ce qui est info-divertissement dans l'automobile.
Hein? Donc, on pourra regarder BFM Business.
On pourra regarder BFM Business.
Oui.
L'un pourra regarder BFM Business pendant qu'un autre pourra regarder un film. Un troisième pourra avoir un jeu vidéo et sans se gêner les uns les autres.
Alors moi, ce que j'ai vu, enfin, il y a un logiciel qui m'a intrigué. Je crois qu'il est l'équipe, là, le prototype qui est derrière vous, Patrick Koller. C'est un logiciel où on voit si le conducteur il est de bonne humeur, s'il est irrité, s'il est fatigué. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il arrête la voiture, le logiciel?
Alors non, il n'arrête pas la voiture, mais il va vous proposer un certain nombre de possibilités pour changer votre humeur. Par exemple, en utilisant la lumière à l'intérieur, en utilisant le son, en utilisant la posture que vous avez dans le siège, donc pour essayer de vous mettre dans une situation de plus grand dynamisme ou de vous calmer si vous êtes irrité au volant.
Alors pas très clair. Ici, je disais, c'est un lieu un peu secret en fait, même s'il y a des gens qui sont derrière nous, mais enfin, ce sont vos fournisseurs, vos clients, parce que c'est les innovations que vous allez proposer à certains de vos clients, enfin de constructeurs automobiles avec lesquels vous travaillez. L'innovation, c'est ce qui va sauver les constructeurs automobiles.
L'innovation, elle est fondamentale. Mmh. Elle est d'abord aussi nécessaire compte tenu des transformations que l'on est en train de vivre, que ce soit l'électrification, des changements très importants au niveau de l'architecture électrique et électronique, le contenu en algorithmes et en programmes, les matériaux que l'on doit forcément changer parce que l'on va vers du low CO2, donc de la faible empreinte carbone, et ça nécessite des infrastructures, des architectures et des solutions différentes.
Moi, ce qui me frappe, c'est j'ai interviewé récemment Luca De Meo. C'était il y a un peu plus longtemps Carlos Tavares, le patron de Stellantis. On voit bien qu'il y a différents modèles. Il y a un gros groupe qui est Stellantis, et puis il y en a un effectivement qui est plus petit, mais beaucoup beaucoup plus petit. Alors Luca de Meo, il a un argument, il dit ben, regardez Tesla, la voiture la plus vendue et la capitalisation boursière est bien supérieure à celle de Stellantis. Aujourd'hui, on va vers un modèle de voiture, des constructions de voitures avec beaucoup moins de pièces, des modèles bien plus simplifiés, et à la limite, il y a une ou deux voitures stars. Est-ce que vous adhérez à ce discours ?
En fait, ce que l'on observe, c'est qu'on a une beaucoup plus grande diversité de constructeurs que ce que l'on avait il y a 10-15 ans.
Il n'y a plus les mastodontes.
Il y a encore de très grands constructeurs. Mais il y a principalement des constructeurs qui viennent du monde de l'électronique et du software et les constructeurs plus traditionnels qu'on appelle les legacy. Et c'est pas tout à fait les mêmes animaux. Ceux qui viennent de l'électronique ont une approche totalement différenciée et peuvent fonctionner sur des motorisations électriques, sur des volumes inférieurs, mais avec des voitures qui sont les mêmes au niveau mondial. C'est le cas de Tesla.
Ouais. Et c'est le cas des Chinois.
Et c'est le cas de certains Chinois, pas tous les Chinois, viennent du monde de l'électronique. Un certain nombre sont également de type legacy, mais c'est pour ceux que l'on nomme la plupart du temps comme, par exemple, le BYD, c'est le cas.
Ouais. Est-ce que c'est ce qui explique cette déferlante chinoise qui menace l'Europe ?
Alors, je ne sais pas si on doit parler de déferlante.
Oh bah, enfin, en tous les cas, beaucoup utilisent cette expression, Patrick Collard.
Ouais. Je pense que les Chinois ont une opportunité d'importation de leurs voitures d'entrée de gamme, des segments A, parce que nous n'avons pas aujourd'hui en Europe d'offres dans ces segments-là.
Oui.
Mais pour vendre ces segments-là, il leur faut aussi une empreinte, une reconnaissance du marché des consommateurs sur des segments supérieurs, les segments C et D par exemple. Et donc ils vont s'implanter en Europe, mais pas forcément avec des volumes énormes.
Oui, on va rappeler que vous travaillez beaucoup avec, vous avez des partenaires chinois, des constructeurs automobiles. Et je m'en souviens, je vous avais posé la question lors de la grande journée de la filière automobile sur la question est-ce qu'il faut mettre une taxe aux frontières, est-ce qu'il faut mettre un bonus qui exclut ce que voulait Bruno Le Maire, qui exclut notamment les Chinois. Et vous avez dit surtout pas parce que nous, on travaille avec les Chinois.
Alors pas surtout pas parce qu'on travaille avec les Chinois. Je crois que ce qu'il faut, c'est que on applique les principes de réciprocité.
Ouais.
Je crois pas qu'il faille
c'est compliqué.
C'est compliqué. Je crois pas qu'il faille que nous soyons naïfs par rapport à l'industrie chinoise. Ceci dit, quand on parle des entrées de gamme, on n'a pas d'offre.
Ouais.
Hein, et il faudra bien que l'on trouve le moyen d'offrir aux populations des possibilités abordables de mobilité électrique.
Ouais. Est-ce que vous sentez ce coup d'arrêt à la voiture électrique, il y a une espèce d'engouement au départ. Alors, il faut dire qu'il y avait, des aides du côté allemand, du côté français, le fameux leasing social, puis qui ont été arrêtés net. Et du coup, eh bien, les achats de voitures électriques se sont arrêtés.
C'est une erreur. Imaginez l'industrie automobile comme un espèce de super tanker. Vous ne changez pas de cap instantanément. Ça prend du temps. C'est une industrie lourde en B2C. On nous a demandé d'aller dans une direction. La Commission européenne a régulé dans ce sens. Elle ne peut pas changer les règles du jeu, ou les États ne peuvent pas changer les règles du jeu du jour au lendemain.
C'était ce que dénonçait très fortement Carlos Tavares.
Il a raison.
Mais a raison, parce qu'en disant 2035, la fin des voitures thermiques, c'est de la folie. Est-ce que maintenant, vous dites, bon, allez, essayons d'aller jusqu'à 2040. C'est quoi votre position, vous, en tant qu'équipementier ?
Moi, je pense que l'Europe, maintenant que la décision est prise, doit aller plein pot sur la voiture électrique. Si on devait découvrir en 2032-2033, je ne sais pas exactement quand, que peut-être on n'y arrivera pas, ça n'est pas grave. On retardera de quelques années, mais ce qu'il nous faut, c'est atteindre une masse critique suffisante pour pouvoir offrir aux consommateurs des solutions compétitives.
Faut-il, donc vous dites, il faut maintenir le cap tel qu'il a été défini, on est des gros tankers, on ne peut pas changer les règles tout le temps. En même temps, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? Est-ce qu'aujourd'hui, les règles au niveau européen ne sont pas trop complexes ? Quelqu'un a utilisé cette expression que j'ai beaucoup appréciée en disant, aujourd'hui, on est en train de déréguler ce qu'on a régulé, tellement c'est compliqué. Vous en souffrez aussi ?
Bien sûr. On en souffre et on en bénéficie.
Ah bon ?
Oui, parce que la Commission européenne rajoute sans arrêt des technologies dans la voiture. Donc ce sont des technologies que nous développons et que nous vendons. Donc, il faut qu'on soit prudent lorsqu'on se plaint. Mais ceci dit, quand on regarde le poids, quand on regarde l'accroissement du poids sur les 15 dernières années, lié à des réglementations et à des technologies, c'est vraiment trop. Et Renault me montrait un document récemment où il y avait jusqu'à 5 modifications par an. Et donc ça, c'est exagéré et on n'est pas dans ces configurations-là en dehors de l'Europe.
Vous avez publié vos résultats 2023, c'était il y a quelques semaines maintenant, plus de 27 milliards de chiffre d'affaires. Vous avez 25% de vos chiffres d'affaires qui est aux États-Unis. Aux États-Unis, est-ce que ce système d'IRA, comme on dit, Inflation Reduction Act, est-ce que pour vous, c'est beaucoup plus simple, c'est ce qu'on dit, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un tropisme américain un peu inquiétant du côté des entreprises européennes?
Alors oui, bien sûr, c'est beaucoup plus simple.
C'est beaucoup plus rapide.
Et c'est un problème. Et on a vu un certain nombre d'investissements qui avaient été prévus en Europe être transférés vers les États-Unis. Je pense que l'Europe a besoin d'imaginer un équivalent pour pouvoir réindustrialiser l'Europe.
C'est ce que vous faites, c'est ce que vous allez faire niveau de Forvia.
Non, on n'est pas directement impliqué dans ces éléments-là. Mais on voit, par exemple, les fabricants de batteries, un certain nombre d'industries lourdes, comme par exemple les semi-conducteurs, qui peuvent être bien sûr intéressés par les incentives américaines.
Il y a une question quand même très importante, parce que vous avez annoncé 10 000 suppressions de postes, ce qui est quand même assez colossal à l'aune de Forvia. C'est l'intelligence artificielle qui vous conduit à ça. On n'arrête pas de dire que l'innovation et la technologie sont en train de bouleverser tout ce secteur de l'automobile. Est-ce que c'est un argument, est-ce qu'il y a un vrai argument, ou alors c'est une raison de faire passer la pilule?
Non, l'argument numéro un, c'est le fait que l'on est passé en 2019 de 21 millions de voitures en Europe, ça incluait la Russie à ce moment-là, à 16,5 millions sans la Russie en 2023. Donc vous avez une baisse d'une vingtaine de pourcents et c'est une baisse structurelle. C'est le nouveau volume que l'on produira en Europe et il sera stable. On ne le dépassera pas dans les années à venir.
Donc, pourquoi? Parce que la population, elle grandit, même si en ce moment, il y a un problème démographique.
Oui, mais il y a aussi eu des délocalisations. Les Allemands en particulier produisent leur 4x4, par exemple, Mercedes, BMW,
avec qui vous travaillez beaucoup, on va le souligner.
Avec lesquels on travaille aussi, bien sûr. Ils les ont délocalisés en Amérique du Nord et en Chine. Donc on n'a pas tout à fait le même profil. C'est pas juste une baisse de la consommation de voitures, même si elle existe aussi, mais c'est un nouveau palier, c'est un nouveau niveau mature européen.
Donc vous aussi, vous dites, en fait, les productions se délocalisent soit aux États-Unis, soit en Amérique du Sud, soit en Chine, et on a l'impression que l'Europe reste un tout petit peu inerte par rapport à toutes ces transformations.
Alors, elle se délocalise pas vraiment. Si vous regardez aux États-Unis, on est pareil. On est à un niveau aux environs de 16 millions de voitures. C'est le niveau mature du marché américain, nord-américain. Oui. L'Europe, c'est pareil. Donc, on a maintenant atteint, on a fait un décrochage et on est maintenant sur un niveau pérenne, probablement durable, en dessous de 17 millions de voitures.
Et l'intelligence artificielle, alors? Quel impact cela a-t-il réellement?
Massif. Ça va avoir un impact massif.
Pour vous, j'entends, pour votre business.
Pour toutes les industries qui s'y intéresseront. Ce sont en particulier les industries qui ont un contenu technologique important, donc un contenu de R&D important et un contenu industriel important. Et là, le potentiel de productivité est tel qu'il faut y aller. Si on n'y va pas, on risque d'être éliminé de la compétition.
Oui, mais en même temps, là, vous démontrez toutes les grandes innovations. Est-ce qu'il y en a à partir de l'intelligence artificielle, là, derrière nous?
Alors, l'intelligence artificielle, on a l'impression de la découvrir avec ChatGPT.
Oui.
Donc ça, c'est la dernière partie. C'est l'intelligence artificielle générative. Bon, mais on utilise l'intelligence artificielle depuis longtemps. Sur des choses un peu plus simples, comme par exemple robotiser du transactionnel ou réduire la variabilité de process industriels, etc. Et maintenant, on arrive à un stade qui est un stade de création, c'est-à-dire que ce système d'IA et de générative est capable de coder. Ou est capable de faire de la conception sur des modules de taille raisonnable.
10 000 suppressions de postes, vous vous arrêtez là ou il y en aura d'autres et c'est sur à quelle échéance ?
La raison pour laquelle on a parlé de ça, c'est parce que ces postes, ces réductions de postes sont liées à la restructuration que l'on doit financer. Donc c'est assez simple. Si vous prenez les montants de restructuration que nous avons annoncés, vous les divisez par une moyenne de 100 000 euros par personne en Europe et vous allez trouver des 10 000 personnes. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce calcul et que l'on a communiqué sur cet élément-là. Une fois que c'est fait...
Mais ça sera fait quand ?
Ça sera fait d'ici 2028. D'accord ? Une fois que c'est fait, à partir du moment où on a un nouveau palier qui correspond à nouveau à ce marché mature... Il n'y a aucune raison d'aller plus loin. Alors après, il y aura des productivités qui peuvent être liées effectivement à l'intelligence artificielle. Mais la principale motivation, c'est de protéger nos positions fortes en Europe. Nous, en Europe, nous faisons 40% de notre chiffre d'affaires. Et donc c'est très important pour nous.
Le point clé, vous l'avez dit, Patrick Koller, c'est le coût de production, parce que derrière, c'est le prix d'une voiture. Or, tant que le prix des voitures, surtout les voitures électriques, sera aussi élevé, on n'en achètera pas, sauf si effectivement il y a des aides. Comment faire ? Il faut abaisser le point mort de production d'une voiture.
Alors, d'abord, je ne suis pas un constructeur automobile, mais j'observe
un peu ce qui se passe. Mais vous êtes dedans,
oui. Je pense qu'il fallait rendre la voiture électrique attractive à un moment où son environnement n'était pas en place. Donc, il y avait des difficultés pour trouver des bornes de recharge, etc. Et donc, on a suréquipé les voitures électriques. Et donc, quand on dit une voiture électrique coûte 40% plus cher qu'une voiture thermique, c'est pas à équipement identique.
Ah, intéressant.
Premier point. Donc, je pense que les nouvelles générations, maintenant, seront beaucoup plus proches en matière d'équipement. Et je pense que l'écart de 40% se réduira probablement en dessous de 25%.
À quelle échéance, là encore ?
Les nouvelles générations à venir. Donc, on est dans ce processus-là. Et je pense qu'on a, du point de vue du coût des batteries, un espèce de pic actuellement qui est lié aux volumes qui sont relativement bas et au prix des matières. Et on peut espérer que ça baisse également. Je crois, personnellement, qu'à terme, un terme prévisible... l'écart entre une voiture thermique et une voiture électrique sera de l'ordre de 10%.
Oui, donc une réduction quand même très significative.
Absolument. Et quand vous voyez comment est l'écart de coût de l'utilisation de la voiture, 10% devient tout à fait possible et acceptable pour le consommateur.
Allez, juste pour conclure, il nous reste une minute. J'ai vu qu'il y avait une espèce de... Il y a un volant avec des écrans devant... qui ressemble vraiment, on a l'impression de conduire une Formule 1. Ça va arriver bientôt ?
Alors, toutes les technologies que vous avez vues ici sont prêtes à être vendues et à être intégrées dans les voitures. Donc oui, c'est possible.
Mais est-ce qu'il y a des constructeurs qui vous achètent ça ?
Absolument.
Oui. Et ça sera pour quand, alors ?
Ça ne va pas vous plaire, mais c'est un constructeur chinois qui démarre.
Ah, ouais. Et donc là, ça sera pour les voitures électriques ?
Ça sera pour les voitures électriques.
Oui. Merci beaucoup Patrick Koller d'avoir répondu à nos questions. Donc ici, dans cet endroit un peu particulier, où en plus les équipes de BFM ont pu tourner des images, et je crois qu'on a été les seuls à avoir l'autorisation de filmer ces Absolument. Nouveautés qu'on verra un jour ou l'autre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Patrick Koller, donc le patron de Faurecia, directeur général, était notre invité.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, c'est parti pour les experts. Première partie jusqu'à 19h. Audrey Tcherkov nous a rejoint. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Avec nous jusqu'à 20h, bien sûr. Et nos experts qui sont là, Emmanuel Lechip, bonsoir.
Bonsoir.
Cyril Lachève, l'agence de communication Silence.
Bonsoir.
Bonsoir Cyril, Mathieu Pecheberti, bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Edwige Chevrillon qui est revenu. Bonsoir Edwige.
Bonsoir.
Alors un mot quand même de Patrick Koller, le DG de Forvia, alors qui nous soutient mordicus que oui, le prix des véhicules électriques va vraiment baisser dans les prochaines années, on n'est pas dans l'illusion.
Ah oui, c'est
là.
Ça qui était assez étonnant. Donc c'était un moment, ces deux jours, il présentait toutes les innovations. Aujourd'hui, c'est le grand forum de l'industrie. Ça montre que l'innovation, c'est vraiment la clé du retour de l'industrie en France. Mais il expliquait effectivement que les prix des voitures électriques... pour l'instant, on les a bourrés pour attirer le client, si je veux dire, pour nous attirer, on les a bourrés de choses. Donc, elles coûtent évidemment très cher, beaucoup trop cher. Et quand il n'y a plus d'aide sociale, de leasing social, comme en France, voire en Allemagne, ben c'est, on voit bien que c'est le coup d'arrêt de la voiture électrique. Mais donc, il dit, d'ici quelques temps, il va avoir une sorte de reset de la voiture électrique où elle sera beaucoup plus simple. Moi, c'est la première fois que j'entendais ce discours, donc je trouvais ça très intéressant. Elle sera beaucoup plus simple, beaucoup moins équipée. Et à ce moment-là, on aura juste une différence entre le prix de la voiture thermique et le prix de la voiture électrique qui ne sera que de 10%. À ce moment-là, ben, ça va changer un peu la donne, c'est clair.
40% aujourd'hui, grosso modo,
40%
des 40.
Un gros 40%, oui.
Oui, et puis, il a aussi un discours plutôt très, très entraînant, enfin très optimiste, en tout cas, en disant que la réindustrialisation, elle va passer par l'innovation, Cyril.
Ben exactement, oui, c'est un des grands débats des derniers jours hein, sur la France est-elle en train de perdre ou pas à nouveau des capacités industrielles. Et c'est vrai que quand on voit même ces images hein, que vous avez filmées, c'était vraiment, enfin, ça fait toujours rêver de voir toutes ces innovations dont on est capable. Moi, ce que j'ai bien aimé dans son discours, c'est certaines formes de pragmatisme enfin à l'égard de l'électrique, de pas chercher à nous imposer une date absolue pour le grand basculement, hein, le fameux 2032, et de dire si on n'y est pas, on n'y est pas, et le tout c'est le chemin, et donc ça fait un peu du bien d'entendre quelqu'un qui nous explique quand même qu'on va pas...
Un discours de vérité.
Oui, c'est ça. Ça, il les cache, hein, parce que je me souviens, un jour, il y avait grande journée, il y avait Bruno Le Maire qui parlait qu'il fallait mettre absolument un bonus anti-chinois, et lui, il a dit, non, moi, je suis archi-contre, moi, j'ai besoin des Chinois, je travaille avec les Chinois, et c'est très bien que les Chinois sont en Europe. Il a juste dit un point que je trouve, moi aussi, intéressant, parce que ce métier de constructeur automobile est complètement en train d'évoluer, c'est de dire que les Chinois, comme Tesla, évidemment, c'est des constructeurs qui viennent de l'électronique.
Oui.
Et donc, c'est plus du tout la même logique industrielle que les constructeurs type Peugeot, Renault, et donc, on voit qu'il y a beaucoup plus d'agilité, et c'est sans doute ça la voie de demain.
Mais sur l'échéance de 2035 dont parlait Cyril, alors il n'est pas aussi cash sur ce point-là que Carlos Tavares, on connaît ses positions, mais il commence à dire, si en 2032, 2033, on se rend compte, peut-être qu'on pourra repousser, sauf que ça se décidera pas en 2032. Thierry Breton lui dit même, il y aura une clause de revoyant en 2027. Voilà, donc ça va se faire. Si ça se fait, ça sera beaucoup plus tôt, de toute façon. Si
oui, eux, ils disent maintenant, ça y est, c'est fait, on ne change pas les règles, s'il vous plaît.
On ne change pas les règles.
On en a ras le bol. Ne nous mettez pas trop de bâtons dans les roues. On est parti là-dessus, restons là-dessus.
Oui, c'est ça, on a un cap, on le garde.
Oui.
Bon, voilà donc l'innovation et le prix qui va baisser. 40% d'écart avec le véhicule thermique, 10% d'ici quelques années.
Ouais,
le pari de Patrick Koller.
Et 10 000 postes supprimés, hein, quand même.
10 000 postes supprimés, ça.
Oui,
notamment
quand même au passage.
L'intelligence artificielle.
Quand même.
Ça fait beaucoup. On passe à notre point, si ce n'est quotidien, quasiment hebdomadaire, sur Atos, Mathieu Pechberti. Alors finalement, la publication des résultats est décalée, pas une grande surprise. Hein. Il y a une espèce de constance sur l'incertitude, en tout cas, de la Comfy. Et David Layani, le patron de OnePoint, premier actionnaire, est sorti du bois hier, il faut le dire, avec cette interview donnée au Figaro, deux pages, dans laquelle il détaille son plan d'action. Mais est-ce vraiment un plan d'action pour reprendre le contrôle, Mathieu ?
Écoutez, il ne détaille pas vraiment son plan. Il dit haut et fort qu'il souhaite prendre le contrôle d'Atos, être le sauveur d'Atos, qu'il faut miser sur Atos. Enfin, voilà, c'est quand même un grand coup de com' avant d'être un plan détaillé. Et de toute façon, il ne peut pas dérouler de plan détaillé puisqu'on attend les résultats annuels d'Atos qui seront donc publiés demain. Donc un gros coup de com', et ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction d'Atos ce matin, qui, en plus de dire bon, on publie nos résultats demain, et les étapes aussi de notre plan, donc en gros, est-ce qu'on va passer en procédure de conciliation, parce que je rappelle que le groupe est quand même assisté d'un mandataire ad hoc, hein, Hélène Bourboulou, qui a fait les restructurations d'Orpea, de Casino, donc on n'est quand même pas en train de rigoler. Et au passage, le communiqué de presse d'Atos
qui est d'une froideur.
Exactement, nous avons pris acte des propos de Monsieur Layani dans la presse, il ne nous a présenté aucun plan, etc. Donc autant vous dire que l'ambiance entre la direction, et pour ne pas le citer, entre le président d'Atos, Jean-Pierre Mustier, et David Layani, qui, je rappelle, est administrateur d'Atos maintenant, parce que sa société OnePoint a 11% du capital d'Atos, et lui siège au conseil d'Atos.
Le premier actionnaire.
Et l'ambiance est très froide. Et moi, il m'a été rapporté quand même quelques anecdotes ici ou là du dernier conseil d'administration de la semaine dernière, où on sent bien que lui, de toute façon, il trépigne complètement. Enfin, je veux dire, de toute façon, pour faire une page dans le Figaro, il dit quand même, ça fait un an et demi que lui s'intéresse au dossier, donc tout le monde sait qu'il veut faire quelque chose.
Un peu trop impatient.
trop, c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, il est impatient, ça c'est indéniable. Et en face, il a un bonhomme qui s'appelle Jean-Pierre Mussier, qui a 60 ans, qui est banquier depuis 35 ans, qui a fait des restructurations en veux-tu en voilà, et qui voit le petit jeune qui trépigne et qui le tient à distance, qui lui fait manifestement des rappels au règlement, au conseil d'administration pour lui apprendre comment ça se passe dans les sociétés cotées avec un petit côté un peu hautain des polytechniciens.
C'est ça les anecdotes que vous voulez pas nous relater, Mathieu.
L'autodidacte David Layani, il aime pas trop, donc à un moment donné, il s'est énervé, il fait une page dans le Figaro, mais c'est contre-productif.
Non, mais ceci dit, attendez, parce que peut-être que en effet, il y a un sujet sur l'enchaînement des séquences, peut-être que la communication arrive un peu trop tôt, mais David Layani est quand même clair, il l'a annoncé, il dit qu'il est prêt à participer aux côtés des créanciers à une solution de recapitalisation.
Mais donc,
il a une ligne claire.
Avec Edwige. Quel moyen il fait ça? Il fait 500 millions, Atos c'est 10 milliards, il a pris 8-10%, il veut dire qu'il s'est endetté pour ça, le cours s'est encore effondré, il va sans doute encore s'effondrer, donc avec quel moyen peut-il faire ça? C'est ça, il y a un problème de crédibilité. Je trouve que ce matin, un peu comme l'a soulevé Mathieu Pechberti, ce matin dans l'interview au Figaro, il n'a pas réussi à nous démontrer qu'il était crédible.
Non, mais il cherche des investisseurs, tout simplement. C'est ça maintenant l'idée.
Non, mais il est actionnaire de la société, donc il siège au conseil d'administration, donc il a quand même son mot à dire sur la restructuration. Donc de toute façon, il ne va pas repartir sans rien.
Il a quand même investi 80 millions d'euros dans Atos.
Oui, non, mais c'est rien dans une restructuration où il va falloir mettre 1 milliard dans Atos. Mais oui, donc non, mais il a déjà investi dans la société. C'est un entrepreneur, mais il est pas milliardaire, donc il a déjà perdu beaucoup d'argent. Il a déjà perdu beaucoup d'argent, mais il aimerait bien faire plus. Il cherche des investisseurs et il se pose. Alors là, c'est beaucoup de com, mais c'est vrai, il se pose comme il sait qu'il est en face, on va voir arriver Daniel Kretinsky dans quelques semaines. Enfin,
Vous dites que Daniel Kretinsky est en embuscade.
Lui se met en face en disant moi, je suis un entrepreneur français. Je connais le métier. Et donc, si j'arrive à fédérer des investisseurs, je suis crédible pour. Il a reçu le soutien, en tout cas il y a eu un communiqué de presse du premier syndicat d'Atos, hein, la CFE-CGC, pour soutenir OnePoint et David Layani. Donc il n'est pas rien, le truc c'est qu'il n'a pas de sous. C'est une boîte en restructuration, donc il en faut.
Cyril, est-ce que vous pensez à falloir compter avec David Layani, premier actionnaire, justement pour décanter les choses?
Oui, et puis est-ce que Daniel Kretinsky peut faire partie de la solution proposée par David Layani?
Alors,
si on va plus loin.
Alors c'est une question auxquelles je n'ai pas forcément les réponses, mais ce qui est vraiment intéressant dans la sortie de David Layani ce matin, qui est effectivement maladroite, un peu excessive, et
même si on
un peu trop en avance de phase.
C'est que ça rappelle qu'en fait, en gros, il y a deux camps, deux visions. Il y en a une, alors Jean-Pierre Mussier, c'est la vision des banquiers, c'est-à-dire on va dépecer la bête qui est endettée, donc on met un passif, un actif, on essaye de voir, et donc on va diviser les choses pour essayer de récupérer le plus d'argent. Et puis ce que tente David Layani de dire, mais il faut une vision entrepreneuriale, une vision opérationnelle, on peut tout garder, l'ensemble. Pas sûr qu'il ait raison, hein, parce que de toute façon, il va falloir faire une restructuration massive.
J'ai l'impression qu'il y a deux mondes qui s'affrontent, là, qui
se regardent un peu. Et donc, quelque part, on entend quand même, à nouveau, c'était pour répondre à la petite musique de ceux qui veulent pas un dépeçage. Bon, ça, à voir, parce que justement, ce qui se dit, ou il faudrait apporter à peu près 1 milliard pour que l'entreprise s'en sorte. Ça veut dire 1 milliard avec un vrai plan de gestion opérationnelle et de restructuration. Parce que si on part du principe qu'on a 4 milliards et demi de dettes à peu près, si elle est divisée par deux, quelques ventes d'actifs par semaine, enfin, en gros, c'est 1 milliard. Il les a pas, David Layani, c'est clair, mais effectivement, il cherche aux investisseurs. Kredinsky, lui, il les a. Donc c'est un peu ça, ce qu'ils essayent de jouer. Est-ce qu'ils ont raison ou pas, j'en sais rien, mais encore une fois, ça veut quand même dire derrière, mettre un vrai patron opérationnel. Et ça, pour l'instant, on le voit nulle part. Si on regarde l'ensemble de l'entreprise, on le voit nulle part.
C'est vrai qu'il n'y avait pas de proposition concrète à part effectivement la volonté de ne rien dépecer, mais derrière, il n'annonce rien, il décline pas de plan véritablement dans cette
histoire. Non, mais ce qu'il y a, c'est que bon, il veut tout reprendre, donc c'est peut-être trop gros, peut-être qu'il aurait dû se positionner sur une des parties. Mais bon, un point quand même qu'on ne souligne pas assez, c'est qu'il y a urgence. C'est que là, je pense que les équipes, elles commencent vraiment à en avoir assez de ce très très mauvais feuilleton. Et donc, c'est des cerveaux, enfin, c'est une puissance intellectuelle qu'Atos, en fait. Et donc là, ils sont en train de partir. On voit ici ou là des départs qui sont assez importants. Ouais. Il ne faudrait pas que l'entreprise se vide complètement de sa substance.
C'est ce que Airbus dit, par ailleurs, qu'eux, ils n'ont pas continué les discussions parce qu'ils se sont rendus compte, en effet, que c'était une espèce de coquille vide.
Mathieu Pechberti.
Bon, après, il y a quand même un enjeu qu'il ne faut quand même pas oublier, parce qu'il est opérationnel, il connaît l'industrie du conseil, du numérique, très bien, mais on est dans une restructuration. Donc, à la fin, il y a une addition avec des zéros qu'il faut mettre d'un côté ou de l'autre. Et comme l'a dit Cyril, un actif et un passif. Lui, il est dans une posture de dire on garde la société dans son intégralité, même sur la partie dite de souveraine, c'est-à-dire la cybersécurité, parce que moi, je suis français, je suis entrepreneur français.
Oui.
Et en gros, on demande aux banques de se faire harakiri. Et de l'autre côté, vous avez Jean-Pierre Mustier, banquier pendant 35 ans, qui, quelque part, sans le dire comme ça, est prêt à vendre des pans entiers d'Atos pour que les banques perdent un peu moins d'argent. Donc, il est aussi là, le débat. C'est qu'à un moment donné, vous allez présenter plusieurs solutions à des banques, qui ne sont pas les moindres, puisque c'est BNP, Crédit Agricole, les grandes banques françaises, et leur dire, bon, est-ce que vous voulez démanteler la boîte et vous en sortir pas trop mal, ou est-ce que vous gardez toute la boîte, mais alors là,
mais ces solutions qui sont un peu d'un autre monde, démanteler la boîte, scinder, vendre petit bout, on voit bien que ça ne marche pas. Tous les repreneurs qui se sont positionnés, finalement, sont sortis de la discussion assez
rapidement. On verra quand ça sera devant le tribunal de commerce.
Ce qui est difficile à savoir, parce que c'est quand même une entreprise très complexe à comprendre, à appréhender, hein, quand on n'est pas un informaticien très très haut niveau, c'est de savoir jusqu'où l'activité infogérance apporte quelque chose à la fameuse activité de cybersécurité. Il y en avait certes... Et en gros, c'est deux visions vraiment de spécialistes. C'est-à-dire, il y en a qui disent on peut très bien dégager toute cette... séparer les deux.
Et
d'autres qui disent que effectivement, on
imagine pas. Et c'est le cas de David Layani, en effet.
Voilà, c'est ça. Et ça, très franchement, c'est quand même un dialogue de spécialistes.
Bon, résultat donc demain, mardi, présenté.
On peut oublier les banques.
Oui,
c'est intéressant. À la fin, c'est quand même les banques qui décident dans une restructuration.
Emmanuel Le Chip, pas de réaction. C'est un sujet qu'il ne passe pas spécialement à tous.
Vous écoute.
Voilà.
Mais il va se réveiller.
Pour une fois.
Il va se réveiller notamment à travers ce qu'on va raconter à présent. Bah, Mathieu, vous allez garder la main. Bruno Le Maire, qui est au milieu de tout ça. A déboulé. Alors, c'était pour je dis non, c'était prévu, hein, quand même.
Oui.
Il s'est invité ce matin.
Emmanuel, juste sur le fait qu'on a un ministre de l'économie qui assiste à un comité exécutif d'entreprise publique.
Il s'est pointé au COMEX d'EDF ce matin, Bruno Le Maire, pour s'assurer.
Moi, je sais pas. Nous, on voit jamais notre actionnaire débouler ici. Hein.
Pour s'assurer que tout le monde était bien focus sur la relance du nucléaire. En fait, il est allé voir si tout allait bien et très vite. C'est ça, Mathieu, en quelque sorte.
Bon, je vous fais je vous plante le décor.
Allez, une minute.
En fait, moi, je souris parce que là, on est dans la compol pure. C'était inscrit à l'agenda de Bruno Le Maire, comité exécutif d'EDF, pour montrer que l'État reprend en main la boîte. Et était-ce vraiment utile?
Vu les milliards qu'ils ont dépensés.
Dans la gouvernance des boîtes normales, donc EDF n'est plus une boîte normale, maintenant tout le monde le sait, les actionnaires restent au conseil d'administration. Point barre, ils restent au conseil et au comité exécutif, vous avez le PDG avec ses dirigeants, etc. etc. Mais bon, une fois qu'il va au comité exécutif, pourquoi? Parce que cette année est une année charnière, car EDF est en train de finaliser, les plans des futurs EPR qui seront construits en France à partir de 2027, normalement. Et une fois que les plans sont dessinés, et bah pareil, il faut faire des additions et il faut voir combien ça coûte. Et là, ils sont en train non seulement d'affiner les budgets, la facture, avec les retours d'expérience notamment du chantier d'Hinkley Point, dont la facture a doublé.
Hein.
Et ils sont en train de négocier, en gros, combien de tonnes de béton il faut couler dans la centrale avec le principal fournisseur Eiffage pour voir combien ça coûte. Sauf qu'entre l'estimation qui date de 2019 et l'estimation d'aujourd'hui, il s'est passé 2-3 choses dans le monde, le Covid, l'inflation, etc. Et donc la facture, elle explose. Donc on fera des échos, on publie ce chiffre là il y a quelques semaines, de 67 milliards d'euros qui a été effectivement confirmé en interne, mais on nous dit aussi qu'en fait ce chiffre il n'est pas définitif. Dit autrement, Bruno Le Maire, il est en train de paniquer et il déboule chez EDF en disant vous me resserrez tout ça, vous serrez la main,
vous montrez qu'il contrôle quoi,
vous serrez les coûts des fournisseurs, etc. Bon, combien ça va vous coûter, je sais pas.
Alors, mais enfin, voilà. Non, mais ceci dit, Emmanuel, écoute Luc Raymond, il est plutôt confiant et sur le calendrier et sur les coûts, en disant on va faire des économies d'échelle, on va délivrer 2 réacteurs par an à partir de 2030.
Oui, mais c'est comme tous ses prédécesseurs avant lui qui, au moment de lancer les chantiers, étaient extrêmement confiants. Et c'est vrai que pour le moment, on n'a pas inversé
la tendance,
les spirales des mauvaises surprises. C'est-à-dire que quand vous regardez effectivement tous les chantiers qui sont en cours, on accumule du retard, on accumule des surcoûts. Quand vous regardez par exemple les 6 EPR portés par le gouvernement, on a déjà une facture provisoire qui a augmenté de 30%. Donc si vous voulez, on est quand même d'EDF qui est passé de la capacité à construire 4 centrales par an dans les années 70. Là, on est tombé à 1 à 2 centrales tous les 10 ans. à peu près.
Il y avait 20 milliards la centrale.
Voilà. Et là, on va essayer de remonter la pente avec un objectif qui est quand même extrêmement ambitieux, qui est de, allez, une à deux centrales par an, allez, une et demie.
Oui. Ouais.
Donc, voilà, mais avec tous les surcoûts, en matière de savoir-faire, en matière de technologie, on ne voit pas très bien, effectivement, qu'est-ce qui pourrait nous rassurer.
Ah non, ce n'est pas vrai. On a une industrie qui est quand même beaucoup plus mature aujourd'hui, avec un savoir-faire qui se redéveloppe à nouveau.
Et savoir-faire qui se redéveloppe à nouveau.
Et on est censé construire, justement,
on n'a pas encore été foutu de construire des en série. Enfin, avec une régularité qui se confirme, des retours d'expérience.
Non, mais c'est simple, parce qu'à chaque fois, on fait du sur-mesure.
Positif. Oui, mais bon, il y a un moment où, effectivement, on n'a toujours pas le retour. Et donc, on comprend, effectivement, que Bruno Le Maire, qui, quand même, est en train de chercher le moindre million...
le moindre euro.
Quand il voit cette dérive... des coûts, c'est absolument vertigineux.
Edwige.
Non, mais juste, d'abord, c'est du jamais vu. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que je suis journaliste. Ouais, je suis pas la seule autour de cette table. On n'a jamais vu ça.
Donc, même un rôle d'ambiance autour de la table.
Même à la SNCF, même, enfin, jamais. Ça, c'est le premier point.
Mais alors, est-ce que vous parlez d'ingérence, Edwige?
Il est chez lui. Parce que c'est la paix. Ouais. Non, je suis d'accord, mais enfin bon, c'est pas. C'est un peu bizarre.
Pas nécessaire.
Alors, ouais. En même temps, il est aussi dans une séquence de politique politicienne, comme dirait Mathieu Pechberti, où il veut montrer qu'il va chercher des économies avec les dents. Et donc, c'est une manière de dire attention, là, il y a un dérapage gigantesque en perspective, je surveille.
Bon. Alors, c'est un message envoyé aux agences de notation.
C'est un message envoyé à tout le monde, j'ai envie de dire. Bon. Et notamment aux agences de notation.
Trois minutes pour parler de TVA sociale, peut-être, très rapidement.
Bah, la TVA sociale, pourquoi pas ?
On va réveiller Emmanuel
Chypre, voilà.
Oui, puisqu'il faut aller chercher des sous et qu'on ne veut pas toucher, effectivement, au travail.
On refait le pitch, proposition de Bruno Le Maire. Donc, je transfère 5 points de cotisation, 60 milliards d'euros sur la TVA pour soulager un tant soit peu le salaire net des salariés.
Alors voilà. Là où c'est subtil, c'est que tel qu'il l'écrit, et notamment dans son livre, il parle de transfert. C'est-à-dire qu'en gros, son idée, c'est quand même que, finalement, le travail paye mieux. Et donc l'idée, c'est de redonner du pouvoir d'achat via la baisse des cotisations pour effectivement que quand vous travaillez, bah oui, le travail paie mieux. Et donc on parle de transfert de cotisations, mais là on n'a toujours pas résolu le problème des milliards qu'il faut trouver. C'est-à-dire que si vous, en gros, vous soulagez un peu les salariés et vous allez chercher de la TVA sociale.
On n'a pas tout le monde.
Il ne s'est pas interdit non plus à aller chercher de la CSG. Hein.
Oui, c'est
on est
vrai.
D'accord. Enfin, en gros, tous ces impôts un peu plus larges. Et c'est vrai que quand on regarde la spécificité de la France par rapport aux voisins, c'est qu'on a tendance à plus taxer les entreprises que nos voisins et que malgré les jérémiades des Français, des consommateurs, etc., on est plutôt, on taxe moins sur les revenus et on taxe moins sur la consommation que nos partenaires. Donc oui, il y a
enfin, on taxe beaucoup sur le travail.
Oui.
Ah oui.
Mais moins sur la conso.
Mais grosso modo, sur la conso, on taxe moins.
On est le salaire brut. 14e rang. 40-50%.
Et
sur la conso, donc on est au 14e rang européen. Donc c'est vrai que
donc c'est une option qui, en plus, a le mérite, vous le savez, de d'être un avantage un peu concurrentiel, puisque vous défavorisez les produits importés et vous favorisez un peu. C'est un petit coup de boost à la compétitivité du produit, mais des produits.
Alors, si on veut faire un rééquilibrage fiscal, on baisse un peu les impôts sur le capital et sur le travail. Et on met la gomme sur la conso.
Thierry de la Chèvre.
Alors évidemment, si on s'en tient aux statistiques de la moyenne européenne, oui, c'est ce qu'on fait. Mais TVA sociale, c'est un vaste sujet. Moi, j'ai le souvenir d'un déjeuner avec Jean-Louis Borloo
à
Bercy.
À cause de la TVA sociale.
Et pendant le déjeuner, on lui a annoncé qu'il quittait Bercy, puisque un mois avant, il avait gaffé à la télé devant Fabius sur la TVA sociale, en avouant qu'il y avait dans le projet de
Nicolas Sarkozy en 2007,
qui est juste arrivé, ça a fait perdre 50 de députés à la majorité de Nicolas Sarkozy. Enfin bon, bref, donc c'est un vieux sujet. C'est toujours assez marrant.
Surtout à la veille d'élections.
Ce qui est très bien avec la TVA sociale,
Cyril, il quitte Bercy
pour remplacer Juppé.
Parce que Alain Juppé
n'a pas été
perd sa primaire.
Voilà,
perd son élection législative.
Oui,
il part pas parce qu'il est viré de Bercy.
Non, mais c'était quand même un faux pas.
Conséquence indirecte du fait.
Il part parce qu'il a fait une boulette un soir à la télé dans l'ordre brossant du premier tour des législatives en 2007.
Mais non, ça veut dire qu'effectivement, c'est un sujet explosif et très peu populaire, alors qu'il est très intéressant dans l'absolu. Non, simplement, une TVA sociale, c'est très bien si on s'assure que les salaires, que ce soit qu'il n'y ait pas d'indexation des salaires. Et ça, alors là, bon courage.
Bon, serpent de mer.
C'est quand même de la fiscalité, même si c'est de la TVA, c'est pas une hausse d'impôts, enfin, c'est la fiscalité indirecte. Moi, je trouve que politiquement, on l'a déjà dit ici, je l'ai déjà dit, redit, ça me pourrait paraître très très difficile de faire de réduire les droits sur l'assurance chômage, de faire une TVA sociale, de réduire aussi des prestations sociales, sans à ce moment-là qu'il y ait une contrepartie pour les gens les plus riches ou pour les entreprises. Ça me paraît politiquement.
Et pourtant, c'est bien ce que nous dit l'ouvrage que vous avez lu, La Voix française.
La Voix française.
Voilà, publié donc par Bruno Le Maire, qui est plutôt un programme présidentiel.
Et tout ça dans cette fameuse page 68. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une séquence médiatique, là, depuis quelques jours, de Bruno Le Maire qui ressemble
à
quoi c'est quand même étonnant.
C'est une façon de préparer sa sortie ou pas,
la plus simple que je me demande. Il a quand même avalé un certain nombre de couleuvres, Bruno Le Maire, au cours des derniers mois. Notamment, rappelez-vous, quand il nous répétait qu'il fallait des politiques d'aide de plus en plus ciblées, qu'il fallait arrêter le saupoudrage. N'empêche qu'on lui a fait prendre tout un nombre de mesures qui étaient du saupoudrage. Donc c'était la fameuse phrase de Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Il avait plutôt choisi jusqu'à maintenant de fermer sa gueule. Or là, dans son livre, c'est quand même une critique frontale du macronisme, puisqu'il dit le en même temps, enfin en gros c'est l'anti en même temps son livre, c'est-à-dire qu'en gros il dit il faut resserrer sur des priorités, on ne peut pas tout financer,
on peut pas tout faire.
Il prévoit des hausses d'impôts alors que
c'est le mantra macroniste,
alors que Emmanuel Macron a dit pas de hausse d'impôts. Donc bon, oui, là quand même,
enfin d'accord Emmanuel, mais il est quand même ministre des finances et de l'économie depuis 7 ans.
Oui,
il aurait pu soit avoir un peu
non,
plus
non, mais ça c'est pas ouais, ça c'est pas bon. Un beau procès qu'on lui fait
de
parce
courage
que, parce que objectivement c'est ce qu'on disait, il a quand même avalé un paquet de couleuvres, et celui qui a freiné sur la réforme de l'État, c'est pas Bruno Le Maire, c'est Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, il est quand même un peu gonflé quand il dit ah mais rappelez-moi qui est ministre de l'économie depuis 7 ans. Non, il a quand même freiné beaucoup les ardeurs de Bruno Le Maire.
Prépare-t-il sa sortie ? Ça sera le feuilleton peut-être du printemps des prochaines semaines. Voilà, 18h58, c'est terminé pour cette première partie des experts. Merci beaucoup Emmanuel Le Chip, merci beaucoup Mathieu Pechberti, merci Edwige. On se retrouve mercredi.
On se retrouve mercredi. Demain c'est vous, Guillaume. Oui, demain, c'est voilà, moi. Demain c'est vous. Et tiens, ça sera Nicolas Chabanne qui sera avec nous, parce que ça y est, il était dans le lait. Ouais. Et maintenant, il fait une grande annonce qu'il fera ici en direct. Et puis surtout, ça sera en plus la veille de la. La loi sur le revenu agricole.
Ah oui.
On peut pas dire.
Non, on peut pas dire.
Non, on peut pas dire. Même si vous avez goûté.
Il se diversifie, on va le dire comme ça.
Voilà. On ne peut pas dire.
Cyril Lachèvre revient avec nous dans un quart d'heure pour les experts, plaisir. Deuxième partie, 19h15, 20h. Nous, on se retrouve dans un instant, bien sûr.
Oui, on va parler réindustrialisation, pas que. On va parler libre-échange avec ce traité du Mercosur et beaucoup
puis,
d'autres.
Plein d'actu entreprises. Le patron de Boeing qui va s'en aller d'ici la fin de l'année, c'est pas vraiment une surprise. Et puis c'est Bruxelles qui lance les hostilités quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur du fameux DMA. Tout ça.
Edwige Chevrillon.
Oui, puisque vous parlez d'industrie encore important, jeudi, je reçois Patrice Kane, le patron de Thales, pour parler d'intelligence artificielle, peut-être un peu d'Atos, mais il ne faut pas trop lui dire.
Ah oui.
Mais à mon avis, très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui se fait très rare.
Oui. Et bien, voilà une grande interview. Ça sera jeudi.
Merci à tous, on se retrouve dans un instant.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.